On dit que le bonheur est dans la communication. Je me disais, en lisant le journal ce matin, que les nombreux médias locaux avaient pu contribuer au fait que les gens vivent heureux à Rouyn-Noranda.
Bien évidemment, Pascalo. Être informé, c'est être libre.
Le premier journal qui paraît dans la région de Rouyn,
Benoît Baudrigourd,
c'est le Copper Gold Era durant les années 1926 et 1927. Dans ces années-là, à peu près 1928-29-30, la Gazette du Nord, qui est le journal de l'Abitibi de colonisation imprimé à Amos par Hector Autier, couvre la région de Rouyn. En fait, le premier véritable journal local de la région de Rouyn-Noranda, c'est le Rouyn-Noranda Presse, qui publie à partir de 1933.
Paul Codihy.
Le journal donnait toutes les nouvelles de la région.
C'est un journal impliqué dans la vie régionale, dans la vie locale, qui a des prises de position.
Et il avait une section spécialement pour les mines.
Il s'occupe d'une forme de développement liée au monde anglo-ontarien. Ce qui l'intéresse, c'est la vie minière, voir le développement minier progresser et surtout s'attaquer à tout ce qui nuit au développement minier, à la libre entreprise. L'autre type de développement, que ce soit le développement agricole des régions avoisinantes, là, les colonies alentour de Rouyn, Baudry, Rolais, tout ça, ne l'intéresse pas tellement.
Au point de vue politique, l'éditeur était libéral et il était un excellent éditorialiste, un des meilleurs qu'on a vu.
Le Rouyn-Noranda Presse a une position constante, il est antisyndical, antisocialiste, anticommuniste. C'est sa ligne de force.
Le journal était très bien opéré.
Ensuite va apparaître La Frontière, à partir de 1937.
Gilles Gauvin.
Le premier numéro devait sortir le 24 juin, la journée de la Saint-Jean-Baptiste. C'est le docteur Georges-Antoine Rioux qui a fondé le journal.
La Frontière, c'est essentiellement un journal nationaliste, fondé par les groupes nationalistes.
Pour la rédaction du journal, le Dr Rioux est allé chercher M. Julien Morissette, qui devait être à l'emploi La Frontière environ 18 ans.
La Frontière, juillet 1937. Nous tenons de source autorisée que plusieurs des plages des environs de Rouyn et de Noranda sont devenues depuis quelque temps de véritables endroits de désordre. On nous assure que dimanche dernier, à Moose Bay, il se passa des choses vraiment repoussantes. Nombreux étaient les couples qui dansaient en costume de bain très sommaire. On vit des jeunes filles qui s'affichaient sur le chemin avec une bouteille de bière à la main. Nous protestons avec d'autant plus de force que les scènes qu'on nous a rapportées se sont passées le dimanche. C'est un effronté manque de respect au jour du Seigneur. Nous avons l'assurance que toute la population bien pensante appuiera La Frontière dans ses protestations. Signé La rédaction.
C'est un journal qui est en réaction contre la domination anglophone dans le domaine de la presse écrite au Nord-Ouest, qui défend les intérêts de la nation. Politiquement, La Frontière va être près des milieux nationalistes. Si tu la compares à l'autre journal qui existe pendant la même période, le Rouyn-Noranda Presse, c'est presque l'antithèse. Tous deux défendent une vision de la société qui leur est propre. La vision libérale, la vision intégriste. Le Rouyn-Noranda Presse et La Frontière, qui, à partir des années 30, sont les deux grands journaux de Rouyn-Noranda, vont s'opposer surtout sur la question nationale, la conscription, la guerre. Ça va être des attaques virulentes entre les deux journaux. Le Rouyn-Noranda Presse étant en faveur de la conscription, en étant en faveur de l'appui à la Grande-Bretagne, La Frontière étant en faveur de la non-participation de l'armée canadienne à la guerre.
Par la suite, quand M. Morissette a laissé, c'est André et Lise Payette, les noms qui sont encore célèbres, qui se sont occupés de la rédaction de La Frontière à peu près 2 ans. Ils ont été remplacés par M. Jean-Marc Carle, le frère de Gilles, qui est le cinéaste connu. Là. Finalement, en 1974, Québécois, qui a fait une offre, a acheté le journal La Frontière.
Pour ouvrir le premier poste de radio CKRN à Rouyn, nous avons obtenu la permission de Radio-Canada. Nous avons commencé à émettre 3 heures par jour.
Vous arrivez là à CKRN en 42.
Bruno Cyr.
Ce qu'on faisait, c'est avec un enthousiasme débordant. Il y avait des programmes anglais, des programmes français, puis on donnait les annonces soit en français ou en anglais selon les heures.
Le poste de radio CKRN a été vendu à M. Hector Autier. Autier a vendu à Robert Gour.
Il était très favorable à l'idée à vendre à des jeunes de l'endroit plutôt qu'à des étrangers anglophones.
David Armengourt.
Et finalement, on a fondé la compagnie appelée Radio Nord Incorporée. En janvier 1948, moi j'ai pris la présidence, la direction générale.
Les programmes ont été diffusés.
Gabriel Tremblay.
Dans les langues anglaises et françaises à compter du début.
Grâce aux luttes homériques de la frontière, une très forte lutte pour faire respecter le fait français, puis entendre les Radio-Canada, le réseau français venant en direct de Montréal.
Graduellement, la portion anglaise a diminué et disparu presque complètement.
Rendu à l'avènement de la télévision vers les 55 à Montréal et puis dans les centres éloignés, nous avons été acculés à une décision. C'était impossible de survivre avec l'arrivée de la télévision. Ou on vendait à quelqu'un qui rentrait dedans, ou nous le faisions nous-mêmes. Et nous avons plongé. On était taxés d'aventuriers à ce moment-là.
Jacques Matt.
Les Gaulle ont fait en sorte que CKRN arrive. Puis ça, ça a changé notre monde.
Ça a été d'organiser la production qui a été la grande période héroïque. Et aussi, au point de vue technique, l'expansion. Alors là, je me rappelle Ernest Chartrand. Qui était mon premier réalisateur?
Moi, quand j'ai commencé à Radio Nord,
Ernest Chartrand,
j'étais en charge des enregistrements en dehors du studio. Tout reportage, tout programme, en charge avec des batteries. Enfin, on avait une pile de batteries, puis des batteries d'auto. Quand on avait fini d'amener tout notre bagage sur les enregistrements, on était épuisés au coton. Ça pesait à porter ça tout partout. On faisait des miracles bien proches avec l'équipement qu'on avait.
Alors, en production, Pierre Thibault n'était pas du tout premier groupe, mais presque. Il y a un petit gars qui est arrivé avec une veste de cuir. Dans ce temps-là, il était tough.
Moi, j'étais étudiant. Et les fins de semaine, j'allais travailler comme opérateur.
Pierre Thibault.
Et à ce moment-là, on avait une salle de télé-ciné où est-ce qu'on avait les trois projecteurs à 16 mm. Et pour partir ces projecteurs-là, faire aller les films de reculons ou d'avant, le tout était un système de cordes. Alors, chaque projecteur comportait 5 cordes à 3 projecteurs, ce qui veut dire 15 cordes. Et souvent, ben, dans l'énervement, nous, on se trompait de corde. Alors, c'est le mauvais projecteur qui partait ou le son embarquait dans un autre projecteur. Puis finalement, ben, là, on venait tout mêler avec ça. On pognait toutes les cordes, tout le monde embarquait en ondes. Ça a fait des choses très comiques, mais très pénibles aussi. C'est que ça a duré quand même 3-4 mois avant que les installations remote arrivent. Et lorsque le tout est arrivé, ben, à ce moment-là, c'était vraiment la fête au village parce que là, on était assis et tout se faisait sur le pitonnage. Ce qui a fait qu'à ce moment-là, on faisait beaucoup d'émissions locales.
Il y avait un bulletin de nouvelles. De là est arrivé Jean-Luc Godard dans les années 67-68 à travers un bulletin de nouvelles. Il y avait de la publicité folklorique. Il y avait les célèbres émissions de Réal Caouette. Camille Sanson est arrivé par après. On a commencé à faire de la télépolitique.
À l'intérieur de notre studio, qui était un vaste studio, nous n'avions qu'une caméra. Ta caméra est toujours en onde, alors il faut que tu prennes ton animateur, l'orchestre, le chanteur, le public. Alors le cameraman qui est sur la caméra, ben, fait ça pendant la demi-heure de l'émission, puis il sort de là, moi, c'est fou, ça n'a aucun bon sens, les reins écrasés, parce qu'une caméra, c'est quand même très pesant à pousser.
Les gens étaient captivés par la télévision. Aussitôt que tu passais à la télévision, tu étais quelqu'un. Les animateurs de radio à l'époque étaient des vedettes et ceux de la télévision.
On vivait avec une intensité là-bas. C'est une période de ma vie qui était extraordinaire.
On était toute une grosse famille à Radio Nord.
Ça a eu une influence dans la télévision ici énorme.
Way Miners, Mining News, Gazette du Nord, Way News, Twin City Stars, Copper Gold Era, Way Noranda Press, Le Progrès Monitor, CKRN, CKFM, La Frontière, Le Citoyen, Radio Nord.